Ben, c'est une première au Québec. Un homme qui a été condamné à la prison pour avoir texté au volant et pour avoir provoqué un accident qui a mené à l'amputation de la victime. Donc, il a fait preuve de négligence criminelle et il va faire de la prison pour ça. Il s'appelle Guillaume Crépeau. Et pour analyser un petit peu ce qui s'est passé et en quoi cette décision-là est importante pour la suite des choses, on s'en va rejoindre Maître Charles Côté, avocat criminaliste. Bonjour, Monsieur Côté.
Bonjour.
Rappelez-nous d'abord les faits.
L'accusé s'est retrouvé à texter, à utiliser son téléphone. Il a texté, il était dans un échange de messages texte avec sa sœur lorsqu'il est arrivé à la hauteur d'une motocycliste et il a dévié de sa voie, il l'a frappé de plein fouet. À partir de ce moment-là, les séquelles, naturellement, ce qui en sont suivies. Ce qui a été, l'enquête a révélé, c'est que il avait effacé des messages texte de son téléphone après l'impact, après l'accident.
Oui.
Par contre, il a reçu un autre message de sa sœur avec qui il avait l'échange de messages, de texto, et les policiers ont constaté que ça faisait pas de sens par rapport à la séquence des messages qu'il avait eu avec sa sœur selon ce qui était là. Alors, ils ont pu démontrer qu'il y avait effectivement délibérément caché des messages texte, un peu à l'image de presque d'une publicité de la SAC, là, de ces temps-ci.
Ben oui, avec l'arbre, hein, le gars ramène une
c'est
branche
ça,
d'arbre.
Ouais.
Là. Bon, mais est-ce à dire que si il avait effacé le texto de réponse de sa sœur, qu'il s'en serait peut-être sorti?
Ben disons qu'il n'y aurait peut-être pas eu des motifs pour fouiller, demander un mandat de perquisition et fouiller le contenu de son téléphone cellulaire. Et à partir de ce moment-là, la preuve que ça a été causé par l'utilisation de son téléphone cellulaire aurait probablement été plus difficile. Là, ils ont été capables de retracer l'heure des échanges avec les minutes et ça correspondait avec au moment de l'accident.
Ils ont retrouvé les textos qu'il avait effacés, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
OK.
D'après ce que je comprends, oui, effectivement.
Et parce que là, ce qui a été dit lors du procès, c'est que c'est difficile de faire la preuve que c'est le textage qui a causé l'accident. Pourquoi c'est difficile à faire? Parce que c'est difficile de faire l'équation entre le message que tu envoies, le fait que tu tiens l'appareil et l'accident lui-même?
Bien, il faut comprendre que c'est l'utilisation d'un appareil en main qui est interdite. Vous savez, moi, dans mon véhicule, je peux envoyer un message texte, mais en parlant via l'application, une des applications mobiles, et c'est dans mon véhicule. Alors, je touche pas à mon appareil, donc je suis en loi. Par contre, dans les cas où le téléphone a été utilisé comme tel, c'est qu'il faut avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu'on va trouver l'information dans le téléphone de l'usager, de la personne qui est impliquée dans l'accident. Et pour ça, il faut convaincre un juge d'émettre un mandat de perquisition pour pouvoir fouiller l'appareil. Et là, si on n'a aucun élément de preuve, parce que des accidents, ça arrive, ça a toujours arrivé, c'est arrivé bien avant l'arrivée des téléphones cellulaires puis intelligents.
Ouais.
Alors, c'est difficile de dire, ah ben là, parce qu'il y avait un téléphone cellulaire dans le véhicule, on soupçonne que c'est suite à un texto. Il va falloir une preuve un peu plus solide que ça pour convaincre un juge de permettre l'émission d'un mandat de perquisition. Alors, c'est pour ça qu'il y a une difficulté à le prouver. Là.
Donc, en d'autres mots, si les policiers n'avaient pas trouvé étrange la réponse de sa sœur à 19h14 et qu'ils n'avaient pas conséquemment demandé un mandat au juge, et qu'ils n'avaient pas découvert par la suite, après avoir obtenu le mandat, qu'effectivement, il avait effacé des textos, ce qui prouvait, dans le fond, qu'il y avait quelque chose à cacher. S'il n'y avait pas eu cet enchaînement-là, il aurait pu dire, écoutez, oui, j'ai texté, mais je ne le tenais pas dans ma main, le texto, donc ça n'a rien à voir avec la collision.
Non, dans son cas, et sa défense, c'était qu'il s'était retourné pour regarder sa fille. Il avait été distrait par sa fille qui était à l'arrière de lui là, dans la voiture. Alors, c'est pas la même chose. Lui, il avait une défense qui était tout à fait contraire où il excluait l'utilisation même de son téléphone cellulaire. Alors, dans ce cas-ci, c'est l'enquête policière qui a permis de découvrir.
Okay.
qu'il y avait eu utilisation du téléphone cellulaire.
Alors, cette décision-là, elle est importante. Pourquoi, maître?
Ben, c'est un rappel que texter au volant peut amener des conséquences dramatiques dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l'élément qui est nouveau dans ce dossier-là, c'est le fait que la cause de l'accident, on a pu démontrer que c'était par l'utilisation, qui découlait de l'utilisation du texto. C'est ça qui est particulier de cette affaire-là. Mais en soi, les critères en droit sont les mêmes qu'un autre accident qui aurait été causé par un moment d'inattention de quelqu'un qui se penche pour ramasser quelque chose qui est au sol ou n'importe, même pour prendre son téléphone puis qui est au téléphone puis il y a une conversation téléphonique. Vous savez, la distraction, il y a plein de causes qui peuvent amener ça. Alors, dans ce cas-ci, c'est un texto, puis on n'arrête pas de le rappeler. Utilisez pas votre téléphone, c'est incroyable ce qui peut arriver.
OK, mais je veux juste revenir sur la preuve. La preuve que c'est le texto qui a causé l'accident, elle est où, cette preuve-là, dans ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une preuve circonstancielle?
Non, c'est une preuve,
dans le fond, c'est le fait d'avoir effacé des textos qui amène le juge à dire « Cette action-là prouve que... » Dans le fond, si tu as voulu les effacer, c'est parce que tu étais en train de texter lorsque tu as frappé la motocycliste. C'est en ce sens-là que je parle de circonstances.
Ben là, il y avait une conscience coupable.
C'est
ça. Parce que ça établissait une conscience coupable chez le conducteur que, j'ai perdu, j'étais en train de texter. Là, je les efface. Puis là, ce qui a attiré l'attention des policiers, c'est de probablement voir sur l'écran du téléphone le suivi de la conversation de sa sœur qui apparaît, qui dit, il y a un échange de conversation, là. Fait que là, saisissent, obtiennent, puis ils voient que, ça ne matche pas avec les autres textos là, de sa sœur antérieure.
Et ils voient que le texto qu'il a reçu de sa sœur à 19h14, c'est au même moment où il appelle le 911, 19h14, pour dire, je viens de frapper quelqu'un.
Exactement. Alors, c'est là qu'on voit là, qu'il y avait des bons motifs, les policiers à ce moment-là, de croire qu'ils allaient trouver dans le téléphone les fameux messages textes qui étaient compromettants.
En tout cas,
ils démontraient la conduite et le textage en même temps.
Et là, donc, il va faire un an de prison ferme, là?
C'est la sentence. Il va probablement pouvoir bénéficier, comme tout criminel condamné, à une libération conditionnelle qu'il va devoir demander. Mais c'est la sentence qu'il a eue, c'est 12 mois avec une interdiction de conduire, si je ne m'abuse, de 3 ans par la suite.
Est-ce que c'est très sévère à vos yeux en terminant?
Le juge a établi que la fourchette pour ce genre de crime-là, avec les conséquences obtenues, se situait entre 12 et 36 mois. Compte tenu des remords sincères, l'absence de criminalité, que c'est un père de 2 jeunes enfants, il a décidé d'y aller dans le bas du spectre des sentences fermes à imposer. La couronne demandait 2 ans et la défense demandait 90 jours discontinu à purger les fins de semaine. Alors, le juge a quand même pondéré ce qu'il doit faire en tenant compte, entre autres, du fléau, du textage au volant et de l'impact majeur pour la victime de l'accident.
Qui a été amputé, on le rappelle, exactement. Maître Charles B. Côté, avocat criminaliste. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.